Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. Très bon réveil à tous, tout de suite votre journal de 6h avec Alexandra Sirgan. Bonjour Alexandra.
Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle nuit d'orage en Corse, beaucoup moins violente que la précédente. Hier, les intempéries ont fait 5 morts sur l'île. Face à la polémique autour de la responsabilité de Météo France, Gérald Darmanin réagit. La situation était difficilement prévisible selon le ministre de l'Intérieur. Et puis pourtant, un favori, l'OGC Nice, pris au piège face au Maccabi Tel Aviv. Défaite 1-0 en match barrage aller de la Ligue Europa Conférence.
Les orages se calment sur la Corse ce matin.
Après la violence inédite de la tempête hier, l'île de Beauté s'attendait encore à des gros orages cette nuit. Émeric Dantreuil, vous vous êtes l'envoyé spécial de RMC à Ajaccio. Comment s'est passée la nuit ?
Eh bien, écoutez, ici, la nuit a été relativement calme par rapport aux intempéries d'hier. Il y a bien eu effectivement de nombreux orages, mais les épisodes de vent et de pluie qui étaient redoutés sont restés bien moins forts que la veille. Pour exemple, les plus fortes rafales ont été mesurées cette nuit à 97 km/h à Cagnano, dans le nord de l'île. Hier matin, en comparaison, le vent avait dépassé les 200 km/h par endroit sur la côte ouest de l'île. Les services de pompiers me le confirmaient d'ailleurs tout à l'heure. Aucune intervention liée à la météo n'a eu lieu pendant la nuit, que ce soit en Haute-Corse ou en Corse du Sud. Par prévention, les campeurs ont quand même été évacués hier après-midi de tous les campings de Corse du Sud et logés dans des bâtiments en dur. En Haute-Corse, ce sont également 5400 campeurs qui ont été évacués. Mais la nuit, finalement, donc, a été calme. La vigilance orange inondation et orage est cependant toujours active jusqu'à 10h ce matin. Et Météo France appelle encore à la prudence.
Merci Émeric Dantreuil, envoyé spécial à Ajaccio. Pour RMC, le bilan provisoire des intempéries est de 5 morts et 20 blessés, dont 4 grièvement selon le ministre de l'Intérieur. Ces intempéries qui ont commencé hier et ont donné lieu à des images sans précédent en Corse. Camping dévasté, arbres arrachés, routes endommagées, du jamais vu selon Julien, résident à Ajaccio.
La mer était noire, était sombre, mais rien ne présageait ça. Et là, ça arrivait d'un coup. Des trombes d'eau, le vent, tout s'envolait. Nous, sur la terrasse, clairement, il n'y avait plus rien. Ça, à 8h du matin, 8h30 du matin, au réveil, on ne s'attendait pas à ça. On savait qu'il y avait des orages prévus, mais pas comme ça. Il y a des tempêtes, il y a de l'orage. En montagne, on en a, on connaît. Mais là, comme ça, c'était... Franchement, quand on voit ce nuage arriver, c'était la fin du monde. Clairement, un truc comme ça, c'est du jamais vu.
Et depuis hier, plusieurs représentants locaux pointent du doigt la responsabilité de Météo France. Jusqu'à la dernière minute, l'île n'était placée qu'en vigilance jaune. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur place en Corse, a réagi.
Le ministère de l'Intérieur et notamment la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises entreprend un certain nombre de travaux d'évacuation lorsque nous avons des alertes qui nous permettent de faire ces évacuations. Manifestement, il était très improbable que le phénomène météorologique touche cette partie de la Corse dans des conditions de telle violence et qu'il était très difficilement prévisible. Météo France avait évoqué des vents qui n'atteignaient pas les pointes de plus de 200 km à l'heure dans certains endroits qui ont fait naître les drames que nous connaissons.
Voilà, beaucoup de questions. Il y a de quoi s'interroger encore ce matin sur cette alerte émise très très tard hier. On s'interrogera tout à l'heure à 6h40 avec un ingénieur de Météo France, Jérôme L'Artisan, sur les moyens mis en œuvre par Météo France, et on vous expliquera comment se font les prévisions et pourquoi c'est si compliqué de prévoir un tel orage.
RMC 6h04, le procès de Benjamin Mendy se poursuit en Angleterre. Hier, une deuxième plaignante a témoigné au tribunal de Chester, en présentiel cette fois-ci. Le footballeur français est inculpé de 10 chefs d'accusation, dont 8 viols. Nicolas Pelletier, ce récit a encore une fois été glaçant pour l'audience.
Figé dans le box des accusés, Benjamin Mendy a écouté pendant plus de 2 heures les déclarations de cette deuxième plaignante. Cachée derrière un rideau dans la salle du tribunal de Chester pour éviter le regard du joueur, cette jeune femme décrit une scène qui remonte à octobre 2020. La plaignante accuse Benjamin Mendy de 3 viols lors d'une même soirée à son domicile de Presbury. Coincée dans la chambre qui dispose d'une ouverture à empreinte digitale, la jeune femme avoue qu'elle a répété à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas coucher avec l'ancien international français. « J'ai eu le sentiment de ne pas avoir le choix », explique la victime présumée devant l'avocate de Benjamin Mendy. Le procès se poursuit. Encore 5 plaignantes du dossier Mendy doivent comparaître devant le tribunal. Dans quelques jours, ça sera à la défense de Benjamin Mendy de jouer les premiers rôles.
Et Nicolas Pelletier, journaliste RMC Sport, qui suit ce procès au jour le jour, sera avec nous tout à l'heure, juste après le journal de 7h, pour nous raconter comment il vit ce procès, nous raconter ce qui se passe devant ce tribunal.
Trois hommes condamnés hier à Créteil à 3 et 4 ans de prison ferme pour avoir participé à une attaque orchestrée du commissariat de Vitry-sur-Seine. Le poste de police avait été visé par des tirs de mortier de cocktail Molotov dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Bientôt, des nouveaux trains sur les rails en France. Une commande de 15 TGV nouvelle génération a été faite par la SNCF à Alstom, annonce du constructeur ferroviaire français hier soir. La commande s'ajoute à celle des 100 rames déjà passées en 2018. Objectif, transporter 20% de passagers en plus. Alors à quoi va ressembler ce train nouvelle génération, Marion Tessen?
On l'appelle le TGV du futur. C'est la quatrième génération de trains à grande vitesse développés en 40 ans et il répond aux enjeux écologiques et économiques de notre époque, d'abord parce qu'il consommera 20% d'énergie en moins que les trains actuels grâce à un meilleur aérodynamisme, et ensuite la SNCF devrait faire 30% d'économie sur la maintenance grâce à des capteurs capables de détecter quand changer les pièces. Enfin, cette nouvelle génération de trains pourra accueillir 20% de voyageurs supplémentaires dans des rames qui seront plus récentes et plus modernes. L'objectif de la SNCF est de doubler la part du rail dans le transport voyageurs d'ici 2030.
Ces derniers jours, plusieurs nominations d'anciens ministres ont fait grincer des dents dans l'opposition. L'ancien Premier ministre Jean Castex a par exemple été nommé président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France. L'ancienne ministre du Logement Emmanuel Wargon a elle pris la tête mercredi de la commission de régulation de l'énergie, des postes sur proposition d'Emmanuel Macron ou de sa première ministre. De quoi raviver les critiques sur l'entre-soi en Macronie. Paul Barcelone du service politique de RMC.
Jean Castex, Emmanuel Wargon ou encore l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a hérité d'un poste à la Cour des comptes, tous ont reçu un coup de pouce de la part d'Emmanuel Macron, qui a le pouvoir de signer des décrets de nomination. L'opposition regrette des recasages, mais le député NUPES, Arthur Delaporte, refuse de mettre tout le monde dans le même sac.
Pour ce qui est d'Emmanuel Wargon, ce qui est plus gênant, c'était plutôt qu'elle avait dit qu'elle souhaitait continuer la politique au soir de sa défaite aux élections législatives, et que 4 semaines plus tard, à peine, elle se présente comme une haute fonctionnaire. On ne pouvait pas considérer qu'elle serait totalement indépendante. Après, il faut pas non plus verser dans le populisme absolu. Quand on a une carrière de haut fonctionnaire comme l'a été Jean Castex, il n'a pas choisi d'aller faire du conseil pour le Qatar comme le faisait Nicolas Sarkozy. C'est finalement le cas qui est le moins choquant.
D'ailleurs, ces recasages ne sont pas toujours une évidence. Depuis 2013, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut les bloquer. Et puis certains très proches d'Emmanuel Macron peuvent aussi rester sans mandat ou fonction. C'est le cas en ce moment de Christophe Castaner ou de Richard Ferrand.
On connaît désormais la date de versement de la prime exceptionnelle de rentrée, une aide de 100 euros pour aider les foyers les plus modestes, avec 50 euros en plus par enfant à charge. Ça sera donc le 15 septembre. 10,8 millions de foyers vont en bénéficier.
RMC, il est 6h08, on passe à l'actualité du football. Et Nice, prise au piège face au Maccabi Tel Aviv.
Ils étaient favoris, ils rentrent finalement bredouille. L'OGC Nice est incliné 1-0 hier en Israël face au Maccabi Tel Aviv lors du match barrage aller de Ligue Europa Conférence. Les Israéliens auront donc un but d'avance au début du match retour. Mais le capitaine des Aiglons, Dante, reste confiant.
Tant que tu marques pas, tu es jamais à l'abri. Et si tu marques, tu commences à mener le score, ça va te mettre dans une autre situation qui peut nous favoriser pour gagner des matchs. Pas perdre la confiance, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mais il va falloir qu'on ose tous nos performances dans l'intensité, dans l'agressivité, dans la gnaque, dans la vraiment envie de bien jouer au foot, mais aussi à la fin d'avoir du résultat.
Bonne nouvelle en revanche pour les frères Lebrun au championnat d'Europe à Munich. Ils décrochent le bronze au tennis de table 3-7-1 face aux Autrichiens. Et puis on y a vu une orque, puis un beluga. C'est désormais un phoque qui a été identifié dans la Seine, précisément près de Laval de Pose-Amfreville dans l'Eure. Pas de panique en revanche, selon Sea Shepherd France. Il s'agirait d'un phoque qui a l'habitude de venir se nourrir à cet endroit à cette période de l'année.
Ah bon, ça va, on est rassurés. Alexandra Sirgan pour le journal à 6h10.